Radio Okapi.
Le journal Noéla Luzitu Kabambi. Pour avoir violé les mesures de sécurité prises par le ministre des Transports du gouvernement central, deux bateaux sont interdits temporairement de navigation sur le lac Kivu. Le capitaine d'un troisième bateau est aux arrêts à Calais au sud Kivu. Plus de détails dans ce journal. La mobilisation de la communauté internationale pour la gestion de plus de 7 millions de déplacés internes en RDC. C'est l'une des questions au centre de la rencontre hier à Genève en Suisse entre le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans ce journal, les propos de Jacquemin Chabani. Professeur Alissa Job est notre invité. Le secrétaire général à la recherche de l'Université des Martyrs du Congo annonce l'ouverture cette année académique 2024-2025 d'une école de criminologie au sein de cette institution. Bonjour à tous. Deux bateaux sont interdits temporairement de navigation sur le lac Kivu et le capitaine d'un troisième bateau est aux arrêts à Calais et au sud Kivu. Ces décisions des autorités provinciales font suite à la violation des mesures édictées par le ministre des Transports du gouvernement central, notamment éviter toute surcharge, interdiction de naviguer la nuit et utilisation impérative des gilets de sauvetage pour tous les passagers. Jean Kassami nous en dit plus.
La suspension concerne les bateaux à Ganze et Izinza. Les autorités provinciales qui annoncent la décision reprochent aux propriétaires de fouler aux pieds les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement central, à savoir l'interdiction de naviguer la nuit, l'utilisation impérative des gilets de sauvetage, le chargement excessif ainsi que la validation du certificat de navigation. Pour le même motif, un capitaine du bateau Gloria est aux arrêts à Kinyeziré dans les territoires de Calais. Un leader du milieu encourage les armateurs à observer les mesures des autorités. Marégane souhaite que les embarcations promises par le chef de l'État soient disponibles pour alléger les transports lacustres sur l'axe Minova Idjigoma.
Je reviens au niveau des quatre bateaux de dette que le gouvernement avait donné pour le territoire de Calais et le territoire de Yijui. Ces bateaux ont disparu, on ne sait pas comment. En principe, si ces bateaux étaient là, ils pourraient transporter un nombre moyen de gens et à tour de rôle entre Goma Minova. Les quais d'accostage sont là, mais il n'y a pas de bateau alors que c'est une des promesses du chef de l'État.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais sollicite l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ainsi que la mobilisation de la communauté internationale pour la gestion de plus de 7 millions de déplacés internes. C'est ce qui ressort de la rencontre hier à Genève en Suisse entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Jacquemin Chabani dit avoir aussi demandé la facilitation du HCR pour une tripartite avec les pays voisins pour le retour des réfugiés dans leur pays respectifs. On écoute Jacquemin Chabani dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre, parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations. Là, il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Et nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol, de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays, que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda.
La violence et la haine ne résolvent rien, elles ne feraient qu'exacerber les graves problèmes d'insécurité et de division des peuples congolais qui ont pourtant besoin de la paix. C'est un message solennel de la plateforme citoyenne Dicode RDC, entendez, dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Dans une déclaration qu'il vient de publier, le coordonnateur de la Dicode, Maître Patient Bachombe, condamne l'incitation notamment à la rébellion distillée, selon lui, par certaines personnes à travers les réseaux sociaux. Suivez un extrait de sa déclaration proposée par Jeff Ngoy.
Chers compatriotes, en ces heures graves pour notre nation, une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle un certain Laurent Sokoko, dans une tentative désespérée de se faire passer pour un acteur politique, appelle à la rébellion contre notre État. Les raisons avancées dans cette vidéo sont non seulement controversées, mais elles témoignent également d'une irresponsabilité absolue et d'un mépris flagrant pour des millions de Congolais qui aspirent à la paix et à la stabilité. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette tentative d'incitation à la violence, à l'instabilité et à la division. Les Congolais ont trop souffert des guerres, des rébellions et des manipulations étrangères pour se faire de nouveau entraîner dans un cycle infernal de violence qui ne sert qu'à affaiblir notre souveraineté.
Au Nord Kivu, les FARDC annoncent avoir tué deux leaders du groupe armé ADF, annonce faite lors des opérations conjointes avec l'armée ougandaise UPDF, opération menée depuis le week-end dernier dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord des FARDC qui livre cette information affirme que ce sont deux commandants impliqués dans les actions des ADF. Colonel Makazuka appelle la population à éviter la zone des opérations militaires. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Les forces de la coalition FARDC-UPDF sont en opération dans le secteur des Bapere. Elles ont intensifié et multiplié la pression sur l'ennemi qui s'était retiré dans cette partie. Le week-end dernier, il y a eu des affrontements et nous avions annoncé qu'il y avait des leaders qui ont été neutralisés. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que parmi les combattants ADF qui ont été neutralisés, il y a deux leaders, notamment Mzé Moussa, qui est chargé des reconnaissances de localités dans lesquelles ils font des incursions, et aussi Jaffa, alias Mouhadari, qui lui est chargé de ravitaillement de ce on-la-loi. On a les images et toutes les preuves que ce sont ces deux leaders qui étaient neutralisés. L'ennemi est sérieusement traqué et c'est imprudent de fréquenter les zones où se déroulent les opérations.
Dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Okapi, le gouvernement congolais a exprimé son engagement à lutter contre le travail des enfants dans l'exploitation artisanale du cobalt et du cuivre. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, l'a fait savoir trois semaines après que le département de travail des États-Unis d'Amérique a ajouté le cobalt de la RDC sur la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants. Blaise Ndonga Lamayanda.
Dans ce document de trois pages, le ministre des Mines assure que 95% de la production du cobalt congolais est réalisée conformément aux règles éthiques et sociétaires imposées par les gouvernements et les entreprises cotées en bourse. Kizito Pakabomba a également indiqué que le gouvernement congolais met déjà en place plusieurs initiatives visant à garantir une exploitation respectueuse des droits humains et de la protection de l'environnement. Parmi ces initiatives, les patrons des mines congolaises citent entre autres la formalisation de l'exploitation minière artisanale, la création de la commission interministérielle sur le travail des enfants et le renforcement des contrôles et suivis dans les zones minières. Le ministre des Mines a en outre avoir affirmé que la RDC a retiré depuis quelques mois environ 13 587 enfants des sites miniers sur au moins 16 845 recensés au pays. À cet effet, Kizito Pakabomba a indiqué que ces enfants sortis des mines bénéficient de la prise en charge scolaire, sanitaire, psychologique et de l'enregistrement à l'état civil.
En ce qui concerne la scolarité des enfants des écoles publiques, notez que 98% d'écoles de la province éducationnelle Tanganyika 1 sont opérationnelles. Déclaration hier à la presse académie du directeur provincial de l'EPST. Nicolas Prince Baeleyaï a fait un état de lieu de la grève dans son secteur qui regroupe la ville de Kalemi, les territoires de Kalemi, Nyunzu et Moba. Il souligne que seul le syndicat national des enseignants des écoles primaires poursuit avec la grève. Nicolas Prince Baeleyaï, directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1, est au micro de Paulin Munanga.
Nous avons commencé à constater une amélioration des gens qui étaient en grève mais qui ont repris. Beaucoup ont repris d'ailleurs. À ces jours-ci, la situation se présente de la manière suivante. La province éducationnelle Tanganyika 1 compte 1405 écoles et aujourd'hui sont opérationnelles 1379 écoles. Et cela représente 98%. des écoles qui sont opérationnelles sur l'ensemble de ma province, dont la province éducationnelle Tanganyika 1. Tous les syndicats ont accepté de suspendre la grève. Ils ont compris que nous devons mettre en avant l'intérêt de l'enfant congolais. Mais il y a un seul syndicat qui traîne encore les pas, c'est le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, le CDPP, qui n'a pas encore suspendu ou levé son mot d'ordre de grève. Et par exemple ici à Kalemie, surtout, parce que c'est ici où se trouve l'épicentre de la grève dans les écoles primaires publiques. Nous pouvons dénombrer 57 écoles primaires publiques qui n'ont pas encore ouvert les portes, ce qui constitue un problème sérieux.
Ici à Kinshasa, les travaux d'assainissement de la ville, tels que le débouchage des caniveaux, l'évacuation des déchets et bien d'autres, ont débuté depuis quelques semaines dans certaines communes de la capitale. L'hôtel de ville de Kinshasa et ses partenaires font faire ces travaux progressivement. Mais qu'en est-il de l'apport de la population kinoise elle-même dans l'assainissement de sa ville? Comment l'amener à pérenniser les résultats de ces travaux? Élément de réponse dans ce reportage de Miradine Fouengi.
Cela fait déjà quelques semaines que les travaux de nettoyage ont commencé dans certains quartiers et communes. C'est le cas à Ngiringiri, à Kasavubu, Kalamu et certaines parties d'Engaliema. Ces activités consistent à nettoyer les caniveaux, à retirer les bouteilles et autres objets qui empêchent l'eau de couler normalement. Cependant, au sein de la population, beaucoup semblent indifférents à ces activités. Certains Kinois que nous avons rencontrés décrivent ce problème.
J'ai vu les travaux d'assainissement qui ont été faits ici. Il n'y a même pas deux semaines. Les immondices commencent déjà.
Le problème, c'est que les gens qui habitent sur le coin des avenues ont pour habitude de jeter leurs poubelles dans les caniveaux.
Certains estiment que c'est les manques d'assainissement efficace dans les communes qui ont amené la population à transformer les caniveaux en dépotoirs.
Les immondices dans les caniveaux ne finiront jamais tant qu'il n'y aura pas de poubelles publiques.
Quand on grandissait, il y avait les services d'assainissement et les poubelles publiques. Mais aujourd'hui, ces services n'existent plus.
Que faire pour emmener la population à changer la mentalité? Yves Bolombello, ancien cadre de l'environnement, suggère ceci.
Que l'exécutif provincial intensifie la sensibilisation de la population, mais également l'application des sanctions.
C'est vendredi dernier que tous les bourgmestres devaient remettre chacun le plan de développement de sa commune à l'hôtel des villes.
Rendons-nous dans la province de l'Ituri. Dans un couple, faut-il fouiller dans le téléphone de son partenaire? Cette question, notre stagiaire Nelly Kataka l'a posée à certains habitants de Bunia. Certains estiment qu'il est essentiel de connaître la vie privée de son partenaire, mais d'autres trouvent qu'il s'agit d'une intrusion dans l'intimité de l'autre. Alors, la confiance exclut-elle vraiment la curiosité? Voici le reportage de Nelly Kataka.
À Bunia, la gestion du téléphone est un sujet sensible qui attire l'attention des couples, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Dans les rues, les avis sont partagés. Pour cette femme, il est crucial de préserver sa vie privée. Selon elle, vérifier les messages de son mari pourrait engendrer des tensions inutiles.
Si la femme se met à suivre tous les faits et gestes de l'homme, elle peut mourir en les laissant en vie. Le mari peut avoir d'autres femmes dehors, et si je trouve leur conversation dans les téléphones, je risque de faire un AVC. Je ne peux pas toucher au téléphone de mon mari.
De son côté, Jean-Yvon Sompi soutient qu'il ne devrait y avoir aucun secret dans un couple, surtout lorsqu'on est censé tout partager. Pour lui, le mari et la femme doivent évoluer dans la transparence et la fidélité, sauf en cas de confidentialité professionnelle.
Par rapport au ménage, il n'y a pas du secret. Tous ceux-là qui ne veulent pas partager les codes avec leur femme, moi-même, moi, je déplore d'abord ça. Vous pouvez être malade, il peut y avoir une circonstance qui exige à ce que la femme puisse avoir l'accès. Même mon code M-Pesa. Elle connaît. Je prends le téléphone qui peut faire l'opération sur mon compte.
La mauvaise gestion du téléphone portable est souvent à l'origine des ruptures conjugales, de pertes d'affection et même de divorces. Beaucoup estiment qu'il est essentiel d'éviter ces conflits pour le bien-être des enfants.
Actualité internationale. La procédure de destitution inédite du vice-président kényan Rigathi Gachagua a été bouleversée ce jeudi, juste quelques heures avant le vote prévu au Sénat, après que l'un de ses avocats a déclaré qu'il était tombé malade et était hospitalisé. Les audiences ont ainsi été suspendues jusqu'à 17h, soit 15h, heure de Kinshasa. Pour rappel, l'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre le vice-président en conflit ouvert avec le chef de l'État, William Ruto, depuis plusieurs mois. Monsieur Gachagua, 59 ans, est notamment accusé de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'acquisition frauduleuse d'hôtels et d'appartements. Arrivé au Sénat ce jeudi matin, il devait répondre à ces accusations qu'il a qualifiées de pure propagande. Mais après la pause déjeuner, il n'est pas revenu dans la salle d'audience.
L'invité.
L'Université des martyrs du Congo ouvre cette année académique 2024-2025 son école de la criminologie. Le secrétaire général à la recherche de cette institution, que nous recevons comme invité, fait cette annonce. Professeur Alissa Diop dit que l'autorisation officielle a déjà été accordée depuis le 3 septembre dernier par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Quelle peut être l'importance d'une telle faculté, en particulier dans le contexte de l'Est de la RDC? Réponse du professeur Alissa Diop dans cet entretien qu'il a accordé à Bernardin Nyangui.
Professeur Alissa Diop, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Depuis l'année dernière déjà, l'Université des martyrs du Congo avait déjà commencé la première promotion du département de la criminologie. Aujourd'hui, vous quittez le département pour l'école de criminologie. Pourquoi cette différence? Est-ce qu'il y a une raison pour cela?
Je voulais vous préciser que c'est par une autorisation du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire que nous avons changé notre filière de criminologie à une école de criminologie. Et la différence est que la filière fonctionnait au sein du domaine des sciences de l'homme et de la société. Mais pour aujourd'hui, cette école de criminologie déviée tout un domaine en particulier avec d'autres axes. C'est que à l'école de criminologie aujourd'hui, nous avons le droit d'organiser la sécurité intérieure, la criminologie clinique, également la paix et la résolution des conflits, la criminologie économique et environnementale, mais aussi la criminologie organisationnelle et opérationnelle. Et déjà, vous comprenez que, au lieu de parler seulement de la criminologie, dans l'école de criminologie, on a tout détaillé, les axes ou les orientations qui fonctionneraient au sein de cette école.
Et quelle peut être l'importance d'une école de la criminologie, surtout dans le contexte Nord-Kivu ou de la ville de Goma, qui aujourd'hui est située dans une zone à conflit armé?
Il faut savoir que dans une zone à post-conflit comme le Nord-Kivu, Ituri, à l'Est en général, l'importance d'une école de criminologie est très cruciale pour la construction durable et la stabilité de ces régions. Donc il faut retenir que ces zones font face à des défis spécifiques et qui nécessitent une approche où nous devons avoir des experts qualifiés et pour élever les problématiques complexes liées à la sécurité, la justice, la réhabilitation des institutions. S'il faut maintenant donner les avantages de cette école par rapport aux filières, par exemple la sécurité intérieure, c'est une orientation qui permet de renforcer la gestion et la prévention des menaces internes qui persistent par rapport à des crimes organisés, des milices, des groupes armés. Donc cette filière va former des experts en sécurité intérieure qui va contribuer à la stabilité dans la région et même assurer les contrôles des populations déplacées, les maintenir, les maintenir de l'ordre public, renforcer les services de sécurité. Donc ce sont des experts qui vont intervenir sur plusieurs axes. Pour ce qui concerne la criminologie clinique, bon, c'est une spécialité très fondamentale dans une zone post-conflit où les traumatismes des guerres sont fréquents. Elle permet de comprendre les comportements, souvent l'influence par des violences passées, d'élaborer des programmes de réhabilitation pour les criminels, les victimes et les communautés affectées. Donc les criminologues cliniques sont essentiels pour traiter les problèmes psychologiques liés à la violence des guerres. Pour l'orientation paix et résolution des conflits, nous devons former des experts aussi qui sont capables de négocier et de trouver des centres d'écoute par rapport à des promotions et des cohésions sociales, des dialogues et des stratégies de paix durable, capables de maintenir la paix, de réconcilier les gens dans une zone comme celle-là où il y a des conflits entre intercommunautaires, des conflits entre des pays. Ce sont des gens qui vont intervenir sur ces plans-là pour que En tout cas, s'agissant des paix, il y a des gens qui sont expérimentés dans les recherches des solutions durables.
Professeur Alissa Diop, je rappelle que vous êtes le secrétaire général à la recherche à l'Université des Martyrs du Congo. Nous vous remercions.
Et merci à vous tous qui avez suivi ce journal qui arrive à sa fin, un journal coordonné par Élisée Tchikota. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. Je vous retrouve à 16h, heure de Kinshasa, pour le prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio Okapi, le média de la paix.